Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Bana Okapi. Pour ce premier numéro du mois de mars, mois de la femme, nous avons choisi d'aborder un sujet des sociétés qui touche directement notre jeunesse, l'éducation sexuelle en RDC. Un tabou culturel persistant qui prive nos adolescents d'informations vitales. Dans de nombreuses familles et communautés, la sexualité reste un sujet interdit, considéré comme inapproprié pour les jeunes. Mais les silences ne protègent pas. Au contraire, ils exposent nos adolescents à des risques majeurs. Grossesse non désirée, infections sexuellement transmissibles, violences et j'en passe. L'éducation sexuelle complète est un droit, une nécessité. Elle permet aux jeunes de comprendre leur corps, de faire des choix responsables, de préserver leur santé. Alors, comment la société congolaise perçoit-elle réellement l'éducation sexuelle? Quels sont les obstacles et les idées reçues qui persistent? C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro de Bana Okapi. Ne manquez rien. Je suis Sarah Soumbela, la présentation de ce magazine, une mise en onde de Dieudonné Nyangassa, Christian Mapenda Noyakris, coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele, Dijano. Okapi. Okapi. Les amis de Bana Okapi, l'éducation à la santé sexuelle et reproductive des adolescents, un sujet vaste et complexe. Elle englobe des informations et des conseils essentiels sur la puberté, l'hygiène menstruelle, la reproduction, la contraception, les IST et les VIH-SIDA, mais aussi sur l'égalité des sexes, la prévention de violences sexuelles et la promotion d'une sexualité positive. Un ensemble de connaissances cruciales pour permettre à nos jeunes de faire des choix éclairés et de vivre une vie saine et épanouie. Comment les jeunes Congolais perçoivent-ils l'éducation sexuelle? Ont-ils accès à la bonne information? Par quel canon? Suivez successivement une jeune fille et un jeune garçon de Kinshasa. Ils ont été interviewés par Sulamit Kipouni.
Bonjour madame.
Bonjour.
Qu'est-ce que l'éducation sexuelle représente pour vous?
L'éducation sexuelle est un ensemble de principes qui aide toute personne, jeune comme vieux, à avoir de connaissances sur la sexualité.
Pensez-vous que l'éducation sexuelle est importante pour les jeunes? Si oui, pourquoi?
Elle est importante car la sexualité est importante pour toute personne, surtout pour les jeunes, car il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas des principes et qui tombent dans des mauvaises phases de leur vie. Peut-être pour une fille, elle peut avoir une grossesse indésirée ou des IST pour les garçons et les filles. Donc l'éducation sexuelle est importante.
Où et par quel canal avez-vous appris ce que vous connaissez sur la sexualité?
Principalement, j'ai appris de la sexualité à l'école, sur le banc de l'école. Et peut-être par quelques amis qui vous disent que non, il y a ça par rapport à la sexualité.
Vous n'avez pas eu le temps d'échanger avec les parents par rapport au sujet de la sexualité?
Nous sommes des Congolais. Et les Congolais, souvent, les parents, ce genre de choses, c'est un sujet tabou, quoi. Si un enfant veut parler de ces choses, les parents considèrent déjà que l'enfant commence dans des bêtises et ils veulent peut-être punir l'enfant. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas parler de ce genre de choses chez les parents. Précisément, mais moi non, j'ai pas appris ça auprès des parents.
Pensez-vous être suffisamment informé en ce qui concerne la sexualité, notamment sur comment se préserver des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles?
Non, on n'est jamais assez informé. Et pour se préserver, en tout cas, même si on peut utiliser toutes les méthodes de prévention, il y a toujours une seule méthode qui est la plus efficace, c'est l'abstinence. Donc les autres méthodes n'est pas sûr à 100% que vous le voulez ou non, vous pouvez avoir une grossesse indésirée. Pour les maladies sexuellement transmissibles, comme je dis, on n'est jamais assez sûr. Même si on peut utiliser des méthodes de prévention, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. On peut aussi attraper des maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis et autres.
Y a-t-il des sujets liés à la sexualité dont vous aimeriez particulièrement parler ou en savoir?
Pas particulièrement, mais s'il y a toujours des choses à savoir ou à ajouter à mes connaissances, ça sera pas mal.
Quels sont, selon vous, les obstacles qui empêchent les jeunes à avoir une connaissance sur l'éducation sexuelle en RDC?
Actuellement, je peux dire que, sauf peut-être les enfants qui ne vont pas à l'école, hein, leurs parents, je ne crois pas qu'ils leur parlent de la sexualité, mais ceux-là qui partent sur le banc de l'école, il y a maintenant des enseignants, il y a même un programme approprié sur l'éducation sexuelle qui aide les enfants à connaître et à pouvoir avoir des connaissances sur ça. Peut-être pour les enfants qui ne vont pas à l'école, là, je ne crois pas que leurs parents leur parlent de ça, mais pour ceux qui vont à l'école, ils doivent avoir ces cours de l'éducation sexuelle.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Qu'est-ce que l'éducation sexuelle signifie pour vous?
Alors, l'éducation sexuelle, c'est le fait d'apprendre à un enfant ou de le faire découvrir le fonctionnement de sa sexualité, la particularité qu'il y a en sexe par rapport au sexe opposé et les dangers, les avantages et surtout comment il peut utiliser sa sexualité de manière responsable.
Pensez-vous que l'éducation sexuelle est importante pour le jeune? Si oui, pourquoi?
Oui, c'est très important. Parce que c'est grâce à l'éducation sexuelle que les jeunes peuvent savoir comment se comporter en société, rien que par rapport au sexe opposé. Mais aussi, ça évite le problème que nous connaissons souvent en termes de grossesse non désirée et même des cas de viol et d'autres problèmes liés à la sexualité dans la société.
Où et par quel canot avez-vous appris ce que vous connaissez sur la sexualité?
Alors, tout en étant sincère, j'ai grandi dans une famille congolaise, africaine, où dans laquelle parler sexualité était carrément tabou. C'est donc à l'école, et je peux dire un peu aussi à l'église, mais surtout, c'est, je peux dire, dans la rue, hein, avec les amis, comme ça, sur Internet, comme ça, par curiosité. C'est un peu comme ça que moi, personnellement, j'ai connu tout ce que je connais.
Parlez-vous de la sexualité avec vos parents?
Non. Jamais. À moins que je ne m'en souvienne pas, mais jamais.
Pensez-vous être suffisamment informé en ce qui concerne la sexualité, notamment sur comment se préserver des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles?
Je pense que c'est vrai qu'on découvre chaque jour et qu'on apprend chaque jour, mais je connais quand même les bases de ce qu'il faut savoir.
Y a-t-il des sujets liés à la sexualité dont tu aimerais particulièrement parler ou en savoir plus?
Les grands sujets qui, généralement, me préoccupent le plus sont au niveau de plus jeunes. Je parle des adolescents, ceux qui entrent nouveau dans l'adolescence, en matière de gestion de leur libido, parce que c'est un problème sérieux dans la société, dans une période où nous sommes, où l'information est si facilement à avoir. Mm-hmm. Nos jeunes frères et sœurs sont tout de suite placés devant des informations liées à la sexualité que malheureusement ils n'ont pas toujours à la maison. Et ces informations, au lieu de leur permettre de comprendre comment gérer leur libido, leur poussent plutôt à les utiliser de manière assez vague, désordonnée. Et les conséquences sont là, beaucoup se sont lancés dans la déviance et certains sont aujourd'hui malades et d'autres ont eu de grossesses non désirées.
Quels sont, selon vous, les obstacles qui empêchent les jeunes d'avoir un accès à une bonne éducation sexuelle en RDC?
En RDC, le grand problème, c'est le fait que parler sexualité est carrément considéré comme un tabou.
Parler de la sexualité entre amis, en famille ou...
Entre amis, ça passe. Et encore que quand c'est entre amis, ce ne sont pas toujours de bonnes informations. Mm-hmm. Mais en famille, ça ne passe pas. Ça ne passe pas toujours. Il n'y a pas beaucoup de familles où on peut parler sexualité entre parents et enfants. Et même dans les lieux éducative, c'est pas toujours le cas, notamment les écoles et même les églises. Oui, il y a le cours d'éducation à la vie et puis de la biologie qui donne aussi des cours sur l'éducation sexuelle, sauf que moi je trouve que il y a quand même beaucoup de retenue de la part des enseignants quand ils donnent ce cours, retenue dans le sens où ils se disent peut-être que en face d'eux ce sont des enfants et qu'il fallait pas leur dire les choses en utilisant le mot comme il faut. Mais moi je pense que quand il faut donner le cours d'éducation sexuelle, il faut vraiment dire aux enfants ce qu'ils doivent savoir, comme ils doivent le savoir.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, messieurs.
Merci beaucoup, madame.
Nous venons d'entendre les voix des jeunes, leurs préoccupations et leurs besoins en matière d'éducation sexuelle. Mais qu'en pensent les parents? Sont-ils favorables à cette éducation pour leurs enfants? Comment abordent-ils ces sujets délicats au sein de la famille? Suivez ces parents qui ont été interrogés par Benjamin Modombi.
Bonjour Madame Emérance.
Vous êtes parent, maman de trois garçons. Rapidement, pourquoi beaucoup de parents n'arrivent pas à parler des questions liées à la sexualité avec leurs enfants?
De mon côté, premièrement pour la sexualité des enfants, c'est à nous de faire asseoir les enfants pour les éclaircir au-dessus. Mais j'ai l'impression que les parents fuient cet entretien avec les enfants au moment où ça les expose beaucoup de problèmes parce qu'ils ramassent dans la rue. Comme parent, j'ai cette obligation de faire asseoir mes enfants et leur expliquer de quoi il s'agit concernant la sexualité.
Êtes-vous consciente qu'il n'est pas à en parler et quand même exposer les jeunes? Ils vont prendre d'eux-mêmes avec toutes les conséquences possibles.
Oui, je sais qu'ils seront exposés parce qu'ils vont recevoir d'un côté d'une autre et ce n'est pas bien. Mais nous sommes obligés de leur expliquer sur le point de sexualité. Et j'appelle à tous parents d'être conscients, de faire asseoir les enfants et leur expliquer de quoi il s'agit. Parce qu'ils sont informés, que ce soit avec la technologie qui est accélérée, que ce soit dans la rue, dans la société, ils attendent. Et dès qu'ils attendent de ce qui n'est pas bon, de ce que le parent n'a pas dit, ils vont vouloir exercer ce qu'ils ont entendu. Et ce n'est pas bon pour nous les parents.
Vos enfants se sentent-ils en confiance au point de partager ou de vous poser des questions sur la sexualité?
Oui, oui. Ils se sentent aussi à l'aise de me poser les questions parce que de moi-même, je suis obligée de leur expliquer. Et je ne cache rien.
Avec notre société aujourd'hui, notre culture à l'éducation sexuelle, quel est votre pressentiment?
Nous sommes obligés de leur expliquer. Mais alors nous les parents, c'est à nous de nous faire ce travail pour expliquer aux enfants ce qu'ils font faire.
Vos conversations sur la sexualité sont du genre conseil, échange ou plutôt d'ordre d'interdiction?
Non, nous accueillons les questions et on est là pour les expliquer. On ne peut pas l'interdire de poser les questions. Et on comprend qu'ils ont appris quelque chose dans la rue, dans l'école, dans la société. Et nous, on est là pour éclaircir et donner les directives. On doit associer la parole de Dieu pour les orienter.
Rapidement, comment les parents peuvent-ils les accompagner, c'est-à-dire accompagner les enfants pour qu'ils fassent des choix éclairés et responsables?
Tout moment, il faut les appeler et leur parler. Parce qu'en parlant, en dialoguant, tu sauras que l'enfant a peut-être une préoccupation. Et là, ça nous pousse à savoir de quoi il s'agit, il pense à quoi, il veut faire quoi. Et là, nous allons les orienter.
Madame, quel message lancez-vous aux parents qui aujourd'hui, en se focalisant aux mères et aux valeurs, n'accordent pas aux enfants la possibilité de leur exprimer leurs soucis, des questions liées à la sexualité?
J'appelle à la conscience aux parents de bien vouloir parler aux enfants, d'approcher les enfants, de leur dire au clair, de leur expliquer de quoi il s'agit concernant la sexualité, de ne pas cacher, qu'ils reprennent leurs bonnes habitudes. On nous faisait asseoir avec ma maman et mes tantes aussi, on nous fait parler de tout ce que nous devons faire dans la vie. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a légèreté par rapport à la technologie. Les enfants commencent à découvrir eux-mêmes avant même leur âge. Et les parents, ils se laissent vraiment faire par leur téléphone, surtout les téléphones, surtout vraiment, j'insiste sur ça. Que les parents aient le temps de causer avec leurs enfants. Et ils seront épargnés. Ce que les parents disent, ils vont retenir ça, qui est dans la rue.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes père d'une famille de 6 enfants, dont 5 garçons et une fille. Rapidement, pourquoi beaucoup de parents n'arrivent pas à parler des questions liées à la sexualité avec leurs enfants à ce sujet?
En fait, la question de la sexualité entre parents et enfants, ça pose encore beaucoup plus de problèmes, surtout nous qui sommes en Afrique. Évidemment, pas dans toutes les familles. Il y a certaines familles qui ont déjà, ou certains parents qui ont déjà compris que c'est important d'en parler. Mais néanmoins, il y a d'autres familles où ça pose problème, donc ça devient une question tabou. Et du coup, les enfants, c'est un problème du fait qu'ils n'ont pas reçu cette éducation au sein de la famille.
Pensez-vous que ce problème est lié à l'attachement, à la culture et aux mœurs africaines?
Justement, parce que, vous savez, ça c'est aussi une question d'héritage. Du fait que nous n'avons pas eu le privilège là d'en parler avec nos parents, nous aussi, ça reste encore un problème du fait que c'est une question en fait lourde, du fait que on s'est dit peut-être si on en parle avec les enfants, donc on ne s'est pas abordé en fait cette question-là. Donc c'est une question de culture, c'est une question aussi d'éducation. Je crois qu'on doit beaucoup plus prendre conscience.
Et puisque vous parlez de la conscience, êtes-vous conscient que ne pas en parler aux enfants peut quand même leur exposer, peut-être apprendre de telles questions, telles thématiques, d'eux-mêmes avec toutes les conséquences possibles? Dans la rue, s'ils ne sont peut-être pas bien informés à la maison, sûrement, ils seront exposés par l'environnement qui pourrait peut-être l'éduquer à leur façon.
Oui, en fait, ça c'est parmi les conséquences. Fait de ne pas en parler avec les enfants, quand ça ne provient pas au fait des parents dans la famille, bon, alors ils sont exposés. Et que donc, les enfants vont chercher eux-mêmes des informations, peut-être auprès des amis, auprès de grands frères, auprès peut-être de gens qui les approchent beaucoup plus, parce qu'ils jugent qu'il y a en fait des limites entre eux et les parents. Évidemment, comme je l'ai dit, ce sont des conséquences, et que nous parents, nous qui hésitons encore d'emboîter les pas, d'aller de l'avant et de comprendre que nous devons en parler avec eux. Nous devons donner ce courage-là et commencer déjà à en parler avec les enfants.
Avec la montée significative de la technologie aujourd'hui, ne pensez-vous pas que cela peut aussi influencer d'une certaine manière les jeunes?
Et aujourd'hui, ça domine d'ailleurs, parce que ça prend beaucoup plus de la place, surtout dans le mental des enfants. S'il y a des problèmes, s'il y a des questions qui se posent et que c'est difficile d'en parler avec le parent, alors il recourt directement à l'Internet, soit en utilisant le téléphone ou alors des ordinateurs, ce qui est déjà un danger parce que la manière dont l'enfant pouvait recevoir, du moins, des informations auprès de leurs parents, ça ne se sentira pas de la même manière que l'Internet va lui fournir. La façon même d'orienter cette information-là dans sa vie personnelle, ça va poser des problèmes. Et que donc, c'est vrai, il y a deux moyens, d'autres moyens de communication, mais ça reste, et j'ai dit, ça reste à la responsabilité de chaque parent d'en parler, en fait, de parler de la vie sexuelle. Mais si on pouvait peut-être réfléchir dans quel sens, surtout pour catégorie des enfants qui sont déjà majeurs ou alors à l'âge de la puberté, et voir si c'est une seule fois par trimestre, préparer quand même une matière liée à leur vie sexuelle. Donc, je crois que c'est important, nous devons arriver à ça.
Comment percevez-vous votre rôle en tant que parent dans l'éducation sexuelle des enfants?
La perception que j'ai en tant que parent par rapport à cette matière, j'ai dit ici que pour nous c'est encore un tabou. Donc on sent que c'est lourd. On doit arriver à décanter cela, à comprendre que c'est parmi les éducations que nous devons donner à nos enfants, et peut-être s'efforcer au moins d'avoir un canevas ou approcher les enfants à des niveaux différents et en fait d'en parler en fait. Pour la société commence d'abord dans la famille. Et la bonne éducation est d'abord donnée au niveau de la famille.
Puisque vous parlez de l'éducation de base dans la famille, vos enfants se sentent-ils en confiance au point de partager ou de vous poser des questions sur la sexualité?
Ne pas les juger dans un premier temps. Et si jamais l'enfant prenait ce courage-là, je crois en tant que parent, je vais avoir d'abord un sentiment de joie. Est-ce que les enfants se sentent confiants de partager ces informations ou alors leur vie sexuelle avec les parents? En tout cas, ça pose un peu problème dans le sens où la perception qu'ont les enfants envers leurs parents. Ils savent que, et que donc, il y a un niveau où les enfants ne peuvent pas tout se permettre. Et c'est ça ce qui gangrène d'ailleurs leur vie sexuelle ou l'éducation liée à leur vie sexuelle. Parce qu'ils se disent, non mais bon, lui il est papa, des fois il est trop autoritaire, est-ce que faudra-t-il, comment je vais aborder, comment. Alors, vous allez voir que l'enfant hésite. Pourquoi? Parce qu'il trouve un écart significatif entre lui et son papa ou sa maman. Et que donc, vous voyez, c'est encore un problème parce que, comme je l'ai dit, nous avons hérité de nos parents qu'un papa doit être méchant. Ça nous crée maintenant un écart de compréhension entre enfants et parents.
Chers auditeurs, amis du magazine Bano Okapi, nous arrivons à la fin de la première manche de ce magazine.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Dans Bana Okapi, nous traitons d'un sujet crucial pour l'avenir de notre jeunesse, l'éducation sexuelle. Nos adolescents âgés de 10 à 19 ans ont un besoin impérieux d'informations fiables sur la sexualité, des services de santé adaptés et d'une reconnaissance de leur droit à une vie sexuelle et reproductive saine. Pourtant, en RDC, ce besoin reste largement insatisfait. Les barrières culturelles, sociales, religieuses et les idées reçues de nos parents, enseignants, professionnels de santé et même des jeunes eux-mêmes créent un mur de silence. Ce silence prive nos adolescents d'informations et de services essentiels pour protéger leur corps et s'épanouir. Alors, quels sont les faits? À quelles informations les adolescents ont-ils accès? Pourquoi ces blocages persistants? Et surtout, comment briser ces tabous pour garantir un accès équitable à l'éducation sexuelle pour tous? Dans cette seconde partie de l'émission, nous allons donner la parole à ceux qui sont au cœur de cette problématique, enseignants, médecins, experts en santé sexuelle des adolescents et sociologues. Ils nous apporteront leur éclairage et leurs solutions pour faire évoluer les mentalités et offrir à nos jeunes un avenir plus serein. Je suis Sarah Sumbela et je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette émission. Un programme coordonné par Christian Mapindano, affectueusement appelé Yacris, avec la mise en onde de Dieudonné Nyangasa et la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele, Dijano. Radio Okapi. Les cours d'éducation sexuelle, une nécessité pour accompagner nos adolescents dans leur développement. Au complet scolaire Le Miracle à Bukavu, ces cours sont dispensés aux élèves qui atteignent l'adolescence, abordant des sujets essentiels tels que le cycle ovarien et les infections sexuellement transmissibles. Pour Kaseringa Bienvenue, directeur de l'établissement, ces cours sont indispensables pour éviter que les élèves ne tombent dans le piège de malinformation. Il appelle d'ailleurs les autres écoles à ne pas négliger l'éducation sexuelle et à l'intégrer à leur programme. Kaseringa, bienvenue, s'entretient avec Rachel Kessembangu.
Monsieur, bienvenue, Kasengera, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Des cours d'éducation sexuelle sont-ils dispensés dans votre école?
Oui, les cours d'éducation à la vie, c'est comme ça que nous l'appelons, ça existe dans notre école.
À quel niveau et avec quelle fréquence vous dispensez-vous ces cours?
Les cours d'éducation à la vie qui traitent des chapitres relatifs à la santé sexuelle sont dispensés à partir de la classe de sixième année. Parce que c'est là que nous trouvons les enfants qui tendent déjà vers la puberté et qui peuvent déjà comprendre le sens de l'éducation sexuelle.
Et quels sont les sujets abordés dans ce cours?
Les sujets abordés sont différents. Nous parlons par exemple de maladies sexuellement transmissibles. Nous parlons par exemple du cycle ovarien de la femme. Là, nous traitons par exemple des règles mensuelles pour préparer les jeunes filles à pouvoir se comporter dignement pendant cette période et bien d'autres dans ce sens-là.
Et lorsque vous dispensiez ces cours au sein de votre école, comment les enfants, les jeunes, réagissent-ils par rapport à ces cours-là?
C'est un cours très intéressant pour les enfants. Parce que avant d'entrer dans le vif du sujet, nous les préparons d'abord psychologiquement. Nous leur montrons l'importance du cours. Et les enfants sont très, très intéressés parce que c'est des sujets qu'ils apprennent rarement, des sujets qu'on ne traite pas souvent dans leur famille.
Alors, quels sont les supports pédagogiques utilisés pour ce cours?
Les supports pédagogiques, c'est d'abord les manuels d'éducation à la vie. Aussi, nous utilisons les livres d'hygiène. Et aussi, nous tirons certains sujets de l'actualité, des sujets qui sont par exemple de VIH/SIDA. Ce sont des sujets que nous actualisons par rapport, par exemple, aux informations récentes sur la maladie et sur la prévention et les traitements.
Vous l'avez déjà évoqué un peu au début, mais si vous pouvez nous rappeler encore, ce cours est réservé aux élèves de quel âge ou de quelle classe précisément?
C'est précisément les élèves dont l'âge varie entre 10 et 12 ans. Et les types d'enfants comme ça, nous les trouvons certainement en 6e année, mais certains aussi se retrouvent en 5e. Pourquoi seulement cela? Parce que nous retrouvons des enfants, comme je l'ai dit tantôt, qui tendent déjà vers la puberté. Mais seulement aussi, nous ne nous arrêtons pas à notre stade, en classe seulement. Il y a une certaine organisation que l'État a demandé qu'elle se fasse au niveau de l'école, celle de mettre sur pied des couples parrains pour des classes. Ces couples parrains ont comme rôle d'encadrer les enfants dans pareille situation. Et là, il s'agit de parmi les parents, nous choisissons deux parents, un papa et une dame, qui s'occupent aussi de l'encadrement de ces enfants.
Monsieur Kassingera, comment gérez-vous les tabous et les résistances culturelles autour de la sexualité?
Oui, les tabous, nous essayons de les briser d'une manière ou d'une autre. Parce que il y a des familles qui vous disent qu'elles ne peuvent pas parler des questions de ces genres aux enfants. Mais nous, nous montrons d'abord aux enfants que nous devons donner, notre mission est de donner une éducation intégrale. Et l'éducation intégrale qui consiste à former la personne sans tabou, sans limite. La personne doit être informée sur sa vie et dans l'intégralité. Voilà pourquoi nous demandons aux enfants de comprendre la matière et de savoir que c'est pour leur bien. Parce que lorsque nous définissons les objectifs opérationnels des leçons, nous leur disons qu'après l'enseignement et dans leur vie courante, les enfants seront capables de mettre en application les enseignements qu'ils venaient de recevoir. Voilà pourquoi nous montrons aux enfants que dans leur vie courante, ils auront à affronter ces problèmes. Et ils comprennent facilement parce que ça parle de leur santé, ça parle de leur personne. Et certains, ça parle des sujets qu'ils vivent déjà, peut-être dans la communauté. Lorsque nous parlons, par exemple, du cycle ovarien pour l'enfant, l'enfant comprend déjà qu'on parle de sa vie lorsqu'elle a déjà, par exemple, ses règles mensuelles. Et donc, ce n'est plus tabou réellement, mais nous essayons de recadrer et de leur montrer que notre objectif, c'est de leur montrer l'importance de cet enseignement et de le préparer à la vie future.
Et selon vous, quels sont les bénéfices d'une éducation sexuelle complète et de qualité pour les élèves?
Les bénéfices sont nombreux. Ça nous évite d'abord les grossesses indésirables, les grossesses précoces indésirables. Parce que les enfants, des fois, ils imitent ce qu'ils voient à la télé et ils le mettent en application sans prendre de précautions. sans en savoir trop sur les conséquences qui peuvent en découler. Et voilà qu'avec ça, avec cet enseignement, les enfants peuvent éviter les grossesses indésirables. Ça peut leur éviter aussi les maladies sexuellement transmises. Ça peut aussi leur permettre d'assurer la propreté de leur corps dans des circonstances bien définies. Voilà, tant soit peu, quelques-uns des bénéfices que les enfants tirent de ces enseignements.
Est-ce que par le passé, vous avez eu des incidents qui vous ont poussé à renforcer la dispensation des secours d'éducation sexuelle au sein de votre école?
Nous n'avons pas encore connu d'incident dans ces jeux. C'est juste de manière préventive que nous les faisons. De manière préventive, et jusque-là, nous n'en avons pas encore connu.
Et comment collaborez-vous avec les parents pour l'éducation sexuelle des élèves?
Oui, avec les parents, je l'ai dit tantôt. Avec ces couples parrains, les parents participent
les couples
activement.
Parrain, ce sont des parents des élèves, ce couple parrain.
Oui, ce sont des parents des élèves que nous appelons couples parrains. C'est-à-dire parmi les enfants de ces élèves, les parents de ces élèves, nous choisissons deux parents. Et ces parents ont comme mission de renforcer l'encadrement de ces enfants dans l'éducation sexuelle. La femme s'occupe des filles et le papa s'occupe des garçons. Parce qu'il arrive des fois que les filles ont difficulté de pouvoir s'exprimer librement ou de pouvoir expliquer leurs difficultés, leurs petits problèmes qu'elles éprouvent dans leur vie. Mais lorsqu'elles se trouvent devant une maman qu'elles considèrent comme leur mère, et là, elles ont facilité de pouvoir lui parler clairement de ses problèmes. Et cette maman a pour mission de leur prodiguer beaucoup plus de conseils et d'orientation par rapport à leur vie sexuelle. Il en est de même du papa aussi, des garçons, et leur parler aussi en particularité. Et les garçons lui expriment aussi leurs besoins, leurs difficultés, leur vie par rapport à à la vie sexuelle.
Pour finir, M. Kessinger, que conseillerez-vous à d'autres responsables d'école qui ne dispensent pas encore ces cours d'éducation sexuelle ou qui ne font pas vraiment cas de cette éducation sexuelle?
Oui, je conseillerais aux collègues chefs d'établissement de pouvoir former les enfants, donner une éducation intégrale. Et donner une intégration intégrale signifie ne pas minimiser certains aspects de la vie. Mais pour éviter les dangers liés à la sexualité du XXe siècle, où les intérêts des enfants sont attirés aussi par la sexualité, il serait mieux de prévenir les incidents, en éduquant les enfants, en leur parlant au préalable de cette vie, pour que les enfants puissent en éviter les conséquences.
Monsieur, bienvenue Kassengera. Je rappelle que vous êtes le directeur du complexe scolaire Le Miracle, dans la ville de Bukavu. Je vous remercie.
Madame la journaliste, je vous remercie.
Les amis et amoureux du magazine Bana Okapi, nous parlons de l'éducation sexuelle des jeunes. Une urgence selon le docteur Placide Kayombo, coordonnateur de l'association Bien-être et Famille, Naissance Désirable au Grand Kassai. Pour lui, nos jeunes sont moins informés sur ces questions cruciales, souvent considérées comme tabous par certaines coutumes et religions. Convaincu que la famille est la cellule de base de la société, le docteur Kayombo encourage les parents à briser les silences et à aborder l'éducation sexuelle dès que l'enfant manifeste sa curiosité. Il estime que c'est les meilleurs moyens de les préparer à une vie saine et responsable. Stanislas Diomi a joint le docteur Placide Kayombo par téléphone pour répondre à nos questions.
Docteur Placide Kayombo, bonjour.
Bonjour, cher Stanislas. Bonjour aux fidèles auditeurs de la Radio Kaki.
Vous êtes le coordonnateur de la structure ABFN au Grand Kassai et Bana Okapi aborde le sujet sur l'éducation sexuelle en RDC, entre silence et urgence. En tant que médecin, quelles sont les principales préoccupations de santé sexuelle que vous observez chez les jeunes?
D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette thématique. C'est une thématique très capitale pour notre pays, notre communauté. C'est vraiment entre silence et urgence. Moi, je me dis déjà que c'est une urgence parce qu'il faut qu'on en parle, parce que ça se parle de moins en moins dans notre population. Alors, étant que médecin, les principales préoccupations, les principaux problèmes que nous avons au milieu de jeunes en termes de la santé sexuelle et reproductive, il y a d'abord les jeunes présentent beaucoup d'infections sexuellement transmissibles. Donc, il y a ces cas de d'IST et notamment aussi le VIH. Parmi ces maladies sexuellement transmissibles. Si vous vous rappelez bien, on a parlé encore avec vous sur la juvénisation du VIH, c'est-à-dire que le VIH devient de plus en plus dans les milieux de jeunes. Il y a aussi ces problèmes de grossesse indésirable. Vous voyez aujourd'hui que le problème de grossesse indésirable, c'est presque dans chaque avenue dans notre quartier qu'il y a toujours une fille mère, c'est un problème sexuel. Et certains d'ailleurs, quand il y a cette grossesse, ils vont se lancer aux avortements clandestins. C'est aussi un problème de santé sexuelle et reproductive. Il y a beaucoup de cas de viol aussi. Allez-y au tripé. Vous allez voir que si 10 cas traités pendant la journée, peut-être 6, 5, 7 peuvent être problèmes de viol sur mineurs, qui est aussi un des problèmes de la santé sexuelle et reproductive. Et chez la jeune fille, actuellement, il y a même manque la non-maîtrise de la gestion de la menstruation chez la jeune fille. Peut-être trouver une grande dame, mais qui ne sait pas gérer ces périodes de règles, ces périodes menstruelles, comment il faut se comporter pendant ces temps, quelle hygiène on peut adopter et comment utiliser même les propres bandes ou bien quel type de matière à utiliser pendant ces temps de règles. Aujourd'hui, c'est quand même un problème de santé sexuelle et reproductive qui est remarqué dans notre communauté, dans l'espace des jeunes. Et peut-être il y a aussi des fausses rumeurs qui circulent sur la santé sexuelle reproductive. Vous dire que si vous recourez à telle méthode de la santé sexuelle reproductive, vous aurez ceci, vous aurez ça là. Voilà un peu d'une manière un peu globale que je peux identifier quelques principaux problèmes que nous identifions de la santé sexuelle reproductive chez les jeunes.
Docteur, quelles sont les informations essentielles que les jeunes doivent connaître en matière de sexualité?
En tout cas, ça c'est très, très capital. Je pense que ici, les problèmes des jeunes principalement, chaque jeune devait d'abord connaître d'abord son propre corps, qu'un jeune maîtrise d'abord son corps, que le jeune sache que oui, mon corps va changer un jour, et dans ces temps-là, il saura au moins comment se comporter à la santé sexuelle et reproductive. Le jeune doit aussi comprendre ou connaître la gestion de besoins sexuels, pour dire d'abord que, un, c'est lié au corps humain d'une manière physiologique, et de deux, comment gérer pendant ces temps pour ne pas tomber dans l'abus, pour ne pas tomber dans les mauvaises pratiques. Et les jeunes aussi doivent savoir, comme il y a beaucoup de problèmes d'IST, de VIH, tout ça, les jeunes doivent connaître aussi comment prévenir ou éviter les maladies sexuellement transmissibles. Parce que vous n'allez pas demander aux jeunes d'éviter les maladies sexuellement transmissibles si ils ne connaissent pas d'abord c'est quoi les maladies sexuellement transmissibles et comment les éviter. Et aussi, peut-être le dernier mot, pour qu'est-ce que les jeunes doivent savoir? Les jeunes doivent aussi savoir quelle est la place qu'on peut avoir les vraies informations sur la santé sexuelle et reproductive. Les jeunes doivent avoir accès aux espaces sûrs des jeunes, aux centres conviviaux des jeunes, pour capter de bonnes informations sur la santé sexuelle et reproductive.
Et quelles sont les conséquences des manques d'éducation sexuelle chez les jeunes?
Ah, voilà. Déjà, quand on n'a pas de bonnes connaissances, on tombe déjà dans les problèmes cités si haut, notamment les infections sexuellement transmissibles, le VIH, les grossesses indésirables, les viols, les harcèlements, les avortements et même la mort. Parce que si on a un problème d'avortement clandestin qui n'est pas bien géré, vous allez voir que quelqu'un va perdre la vie parce qu'il n'avait pas de bonnes connaissances. Donc c'est pour dire que la bonne connaissance, la bonne éducation complète, comme on l'a dit, éducation complète sur le temps sexuel et reproductif, éviterait toutes ces mauvaises conséquences que nous avons citées si haut.
Et comment percevez-vous plutôt l'impact des tabous culturels et religieux sur la santé sexuelle des jeunes? Parce que actuellement, quand on énumère le mot sexuel, déjà c'est un tabou dans plusieurs religions et dans plusieurs tribus. Vous, en tant que médecin, comment vous percevez cette façon-là d'appréhender les concepts sexuels?
Oui, en tout cas, il faut se dire que dans la santé sexuelle et reproductive, le tabou culturel, c'est vraiment a un impact très négatif. Négatif parce que déjà dans notre communauté, quand vous parlez seulement transmission sexuelle, vous parlez quelque chose, vous ajoutez sexuel, on dit impoli. Déjà vous êtes mal à l'aise. Et déjà il y a du mal que même le parent, même en famille, qu'on puisse parler de quelque chose qui est sexuel dans la communauté. C'est pour dire que le tabou culturel a un impact très négatif, qui n'aide pas la communauté à décoller, qui est même un frein. C'est pas même les obstacles de lutte même contre certaines maladies, dont le VIH dans notre pays. C'est aussi ici d'ailleurs où vous parlez des tabous culturels et religieux. Vous allez voir que l'Église même, qui est censée nous éduquer d'une manière globale, mais s'occupe plus de l'aspect spirituel, ou bien que les corps aussi, qui est le temple du Saint-Esprit, doit aussi être sain, doit aussi être protégé. Donc l'Église devait aussi faire briser le silence sur ces sens tabous, éduquer la communauté d'une manière complète pour que nous ayons ces vraies informations. C'est pour dire seulement qu'aujourd'hui, ces mythes tabous culturels, religieux, c'est vraiment un frein, c'est vraiment un grand obstacle que nous devons lutter. Certains pasteurs, si vous permettez, je vais pas jeter juste un petit commentaire. Il y en a d'autres aujourd'hui qui se sont décollés, qui commencent à en parler, qui est un bon avantage pour nous, parce que certains ont compris que oui, si vous n'éduquez pas la jeunesse, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Et du coup, ça sera un grand désavantage pour notre communauté.
Docteur, il y a une maman qui a eu des problèmes sérieux avec sa fille, qui a téléchargé l'application pour savoir contrôler son cycle mensuel. Mais quand sa maman a vu cette application dans son téléphone, et elle a même pu mettre des signaux dans le calendrier par rapport à sa période mensuelle. Et puis la maman s'est enflammée et dit, mais pourquoi tu dois télécharger cette application? C'est que tu commences à faire des pratiques sexuelles. Et c'était sérieux. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette dame?
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette question. En tout cas, j'ose croire que la maman va nous suivre. S'il vous plaît, chère maman, même si ce n'est pas elle, mais même si les autres, si aujourd'hui il y a des technologies qui nous donnent de moyens de suivre la menstruation, il y a une application, je me rappelle bien, c'est Flo, les noms, ça montre comment suivre le cycle menstruel. C'est une très bonne chose pour laquelle il faut encourager la jeune fille à se contrôler. Connaître le calendrier menstruel, ça ne signifie pas que la fille s'est déjà lancée aux activités sexuelles, mais c'est plutôt un droit que cette fille doit connaître quand est-ce que je vois mes règles, quand est-ce que je serai en ovulation, parce que pendant tout ce temps, il y a le changement du corps, que la fille doit attirer l'attention pour dire que pendant ce temps, la période de la chaleur, pendant ce temps, il y a le taux d'hormones qui a augmenté, je peux voir ceci, je peux constater cela, ce n'est pas anormal, ce n'est pas une maladie. Donc c'est pour dire que la maman ne fasse pas les problèmes à sa fille parce que la fille a un calendrier ou a un téléphone qui est en train de suivre comment elle est en train de régler. Je pense que cette maman devait au contraire féliciter sa fille parce qu'elle connaît déjà comment contrôler son corps, comment contrôler son cycle menstruel.
Docteur, je sais que vous êtes aussi un homme de terrain, alors quel conseil pouvez-vous donner aux parents pour qu'ils puissent bien aborder cette question de la sexualité avec leurs enfants? Et puis c'est à partir de quel âge faudra-t-il commencer à parler à sa fille ou à son garçon sur la sexualité?
Ah d'accord, merci beaucoup cher Stanislas pour la question. Le plus important aujourd'hui, nous vous disons d'abord que la meilleure éducation, c'est le récit en famille. Il n'y a pas une meilleure éducation. Aujourd'hui, les universités, les écoles peuvent nous former, mais si on n'est pas bien éduqué à la maison, c'est vraiment compliqué. C'est pas vous trouverez quelqu'un qui est sage, qui est très intelligent, qui brille dans la société, mais l'éducation de base pose problème. Donc c'est pour dire que si aujourd'hui le parent considère leurs enfants comme leurs premiers amis, ça devait être un bon avantage pour permettre à ces jeunes filles, à ces jeunes garçons de bien connaître les questions de la santé sexuelle et reproductive, pas seulement les connaître, mais aussi bien les gérer, familial. À partir de quel âge? Je pense déjà que dès que l'enfant commence déjà, je vais donner l'exemple des pays arabes, l'éducation sexuelle commence à partir de 5 ans. Ces enfants connaissent déjà, ils grandissent déjà, que nous, chez nous, voilà comment on se comporte. Voilà chez nous les valeurs que nous défendons sur la sexualité. Voilà comment nous évoluons et on peut déjà commencer à y voler avec l'enfant. Peut-être une petite histoire. Vous allez voir en famille, l'enfant vous demande, papa, comment on appelle ceci? Tu as honte de dire à votre enfant la vérité, que ceci, ça aide à ceci, ou ça s'appelle tel, il a pu te demander un organe sexuel. Tu lui dis, non, non, ça s'appelle bonjour. Bon, voilà, l'enfant parmi les gens, calmement, il dit bonjour. Il fait sortir, il descend sa culotte pour montrer bonjour. Vous allez voir que c'est vous qui avez rendu un mauvais service à votre enfant. Donc, l'enfant mérite, déjà à partir de son âge de curiosité, mérite la vraie information, mérite d'être bien éduqué sur la santé sexuelle et reproductive. Et c'est comme cela que nous aurons une communauté saine dans l'objectif du développement.
Docteur Placide Kayombo, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la structure ABFN au Grand Kassai. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup, cher Stanislas.
Okapi. Encore plus d'infos.
Les amis de Bana Okapi, il s'agit aujourd'hui de l'éducation sexuelle des jeunes. Pour approfondir notre réflexion sur ces sujets, nous accueillons aujourd'hui Madame Viviane Bwimbi, animatrice au sein de l'ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral, SOFEPADI. Viviane Bwimbi est convaincue que l'éducation sexuelle ne doit plus être un sujet tabou au sein de famille. Elle insiste sur l'importance d'en parler aux enfants dès leur plus jeune âge et lance même un appel aux leaders communautaires pour qu'ils s'impliquent davantage dans cette question de société. Elle propose également au gouvernement d'introduire des notions d'éducation sexuelle dès l'école primaire. Viviane Bwimbi s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Viviane Bwimbi, bonjour.
Bonjour madame.
Avant tout, que retenir de votre ONG ?
Une ONG de droit congolais qui œuvre pour la promotion et les défenses spécifiques des droits des femmes et familles. Nous travaillons sur diverses thématiques telles que la violence sexuelle basée sur les genres, la santé sexuelle et reproductive. Nous sommes dans la gouvernance, les leaderships féminins. Nous sommes dans la résolution pacifique des conflits et tant d'autres.
Alors, quelle est votre perception de connaissance des jeunes sur les questions liées à la sexualité?
Pour répondre à votre préoccupation, déjà il faut savoir que dans notre pays, les jeunes sont sexuellement actifs avant l'âge de 18 ans. C'est un constat personnel. Après plusieurs échanges avec les jeunes dans la communauté, nous avons compris que les jeunes se lancent tôt dans la sexualité parce que, en fait, c'est une curiosité. C'est une découverte, malheureusement, sans pour autant savoir quels sont les risques qui peuvent surgir quand ils se lancent tôt à pratiquer la sexualité. Cette jeunesse n'est pas suffisamment informée sur l'éducation sexuelle. Mais déjà, à l'âge de 14, 15, 16, arrivés jusqu'à 18 ans, ils ont déjà pratiqué plusieurs fois la relation sexuelle, au risque même de compromettre leur avenir. Il est important d'éduquer notre jeunesse à pouvoir s'informer suffisamment sur cette thématique de la sexualité.
Quelles sont les principales idées reçues ou tabous que vous rencontrez chez les jeunes concernant l'éducation sexuelle?
Déjà, vous savez, dans notre culture, l'éducation sexuelle reste un tabou, ça c'est vrai. Et pour le jeune, les discussions ouvertes sur leur corps, la pratique même de la sexualité, et les identités sexuelles se heurtent à des résistances ancrées dans la culture et les normes sociales. Et ces tabous influencent toujours les rapports à la sexualité, voire même à l'estime de soi. Il est important que les jeunes puissent savoir quelles sont les difficultés qui les guettent quand ils se lancent tôt dans la sexualité. C'est très important, c'est une composante essentielle de droit à la santé sexuelle et reproductive des jeunes, la sexualité, l'éducation sexuelle.
Et puis, comment les abordez-vous dans vos interventions pour mieux encadrer les jeunes?
En tant qu'ONG qui milite pour la cause de la femme de manière très particulière, pour aborder ces sujets de la sexualité, dans nos différentes interventions, nous organisons des sensibilisations. Par différentes méthodes, nous organisons des séances, des focus groupes
où nous abordons cette thématique de la sexualité, l'éducation sexuelle des jeunes. Et là, ça part toujours d'un ciblage, d'un focus sur les jeunes filles qui sont souvent victimes de plusieurs abus liés à la sexualité, par exemple. Il y a des filles qui se sont senties touchées par des conséquences liées à la sexualité, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas d'informations suffisantes sur cette thématique. Il y a de celles-là qui ont même abandonné le chemin de l'école parce qu'elles ont pratiqué précocement la sexualité et par conséquent, elles sont tombées grosses et après, elles ont interrompu le chemin de l'école. Tout simplement parce qu'elles n'avaient pas suffisamment d'informations sur l'éducation sexuelle. Et donc, nous utilisons différentes méthodes pour communiquer, informer, éduquer nos jeunes sœurs sur cette thématique liée à la sexualité. Il est important d'intensifier les sensibilisations, l'information. Et cela, dans tous les domaines de la vie, ça ne peut pas être seulement dans la communauté restante, comme par exemple, car nous les ONG, nous venons avec nos petites interventions de programmes axés sur la sexualité, que ces jeunes doivent bénéficier de ces programmes, non. Mais ça peut s'étendre, ça peut s'élargir. Pourquoi pas même dans des familles, pourquoi pas dans des maisons, chaque fois avoir un temps pour échanger, discuter avec cette jeunesse. Donc sortir ces sujets que nous prenons comme tabous de sous la table et mettre ça sur la table et parler de ça ouvertement à notre jeunesse pour prévenir les risques auxquels elles peuvent faire face, particulièrement les jeunes filles qui sont souvent victimes, des fois de grossesses non désirées, des grossesses issues des viols, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas informées sur cette question.
Madame Viviane, quelles sont les stratégies les plus efficaces, selon votre expérience, pour impliquer les parents et les leaders communautaires dans l'éducation sexuelle des jeunes?
Alors, je venais de dire tantôt, je ne pense pas qu'il y aurait une stratégie meilleure comme l'information, la sensibilisation. Déjà, il faut les impliquer dès la base. Impliquer dès la base, ça signifie toucher ces acteurs clés qui sont censés contribuer pour l'éducation sexuelle des jeunes. Qui sont ces acteurs clés? Moi, je cite, il y a les parents. Les parents, ce sont les personnes de confiance pour leurs enfants, pour les informer, pour les éduquer. Et à cela s'ajoutent maintenant les leaders communautaires. Les jeunes ont souvent l'habitude de fréquenter des endroits sûrs tels que les églises. Dans les églises, il y a aussi des leaders. Et ces leaders, lors de leur échanges, des discussions, ils peuvent aussi aborder cette thématique de la sexualité. Et donc, c'est une des stratégies aussi qui peuvent permettre à ce que nous puissions vraiment aider la jeunesse de sortir de cet enclos-là, de cette ferme. Elle s'enferme, ne sachant pas qu'il y a cette discussion qui devait, au fait, permettre à ce qu'elle ne puisse pas succomber ou tomber dans des difficultés qui peuvent connaître d'énormes impacts sur leur avenir. Et donc, j'ai cité la sensibilisation, l'implication des personnes clés, personnes influentes comme le parent. Dans la communauté, nous avons le personnel religieux près de qui ces jeunes se confient de foi pour échanger sur leur avenir. Et aussi, plus large dans la communauté, il y a des leaders communautaires qu'on appelle de foi Mama Yamalongi, donc des églises toujours, qui sont là aussi pour encadrer les jeunes sur des thématiques diverses. Donc, il est important aussi de les impliquer. Et aussi, il y a cette stratégie de transfert d'informations entre les pères. Donc, quand ces jeunes aussi bénéficient de cette information de part des leaders, des parents, elles peuvent aussi les utiliser auprès de leurs homologues, sœurs, collègues de classe, par exemple. Intensifier, c'est aussi une des stratégies qui peut faire à ce que l'information circule entre les jeunes sur les sujets de la sexualité dans le but de prévenir les risques.
Enfin, quelles sont vos recommandations pour les autorités congolaises et les autres acteurs afin d'améliorer l'accès à une éducation sexuelle complète et de qualité pour tous les jeunes en RDC?
Déjà, notre pays est signataire du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et de peuples relatifs aux droits des femmes, communément appelé le protocole de Maputo. Ce protocole contient des dispositifs
relative à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des jeunes. Ces dispositifs protègent le droit des femmes dans le contexte du VIH, par exemple, et à quand des grossesses issues de viol ou que soit des grossesses non désirées, ces mêmes dispositifs autorisent l'avortement sécurisé pour des motifs limités, bien évidemment. Et donc, nous recommandons ici au gouvernement de vulgariser ces protocoles des Maputo, puisque notre pays a ratifié et signé ces protocoles. C'est un dispositif qui peut aussi aider la communauté et les jeunes particulièrement à savoir davantage sur la thématique de la santé sexuelle et reproductive. Malheureusement, le constat amer, nous ne savons pas encore qu'il existe ces dispositifs qui peuvent aussi nous aider. Le gouvernement peut nous aider à vulgariser pour que nous sachions qu'il existe aussi cela. Et à part ça, ça serait aussi important que le gouvernement puisse mettre des mécanismes à place pour que dans nos écoles, nous puissions avoir un cours lié à l'éducation sexuelle des jeunes. Dès le bas âge, l'éducation ne commence pas à 18 ans, l'éducation ne commence pas à 20 ans, l'éducation commence plus bas. Et donc, si cette jeunesse est informée depuis l'école primaire, on peut cibler à partir de 3e année primaire déjà. On commence avec des notions élémentaires liées à la sexualité. Au fur et à mesure, les enfants grandissent, atteindre l'âge de 18 à 4e année, 5e année, 6e année, déjà, cette jeunesse aura une notion sur la sexualité et peut savoir comment se comporter à l'avenir face à des difficultés qui peuvent les guetter sur des questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Voilà un peu, à grosso modo, ce que je peux donner comme point de vue.
Madame Viviane, merci.
Merci beaucoup, madame.
Comment les normes culturelles influencent-elles la perception de la sexualité chez les jeunes Congolais et même chez les parents? Quelles stratégies pour surmonter les résistances culturelles et les tabous afin d'intégrer l'éducation sexuelle dans les conversations familiales? Nous en parlons avec les sociologues Leba Kwaye Junior. Ils s'entretiennent avec Jeff Opela.
Monsieur Junior Leba Kwaye, vous êtes sociologue.
Bonjour.
Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de l'éducation sexuelle en République démocratique du Congo entre silence et urgence. Mmh. Alors vous, en tant que sociologue, pourquoi certains parents ont-ils du mal à parler de la sexualité avec leurs enfants?
Oui, merci beaucoup, monsieur Jeff Opala. Urgence ou silence, actuellement, je dirais que c'est l'urgence. Les parents doivent parler vraiment de la sexualité à leurs enfants. Mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette difficulté-là. Je dirais le premier facteur, c'est les tabous culturels et religieux. Le deuxième facteur, c'est le manque d'information et d'éducation sexuelle. Le troisième facteur, c'est la peur d'encourager les enfants à la sexualité précoce. En ce qui concerne les facteurs des tabous culturels et religieux, je tenterai de dire dans nombreuses sociétés africaines, dans la RDC, la sexualité est considérée comme un sujet sacré, un sujet qu'on n'a pas en privé, un sujet honteux à évoquer aux enfants. C'est bien, mais quand nous rentrons encore en arrière, nous trouverons que même si c'est honteux, c'est sacré de parler aux enfants en public, mais il y avait des écoles initiatiques. Les femmes parlaient avec les enfants, les jeunes filles, et pendant la circoncision, les hommes partaient avec leurs enfants en brousse et leur en parlaient. Et jusqu'aujourd'hui, dans les milieux les plus reculés, ça existe. Avec la modernité en ville, c'est difficile d'en parler.
Okay.
C'est pourquoi moi je pense que les parents doivent juste prendre courage d'en parler à leurs enfants, surtout dans des milieux urbains.
Alors, M. Junior Leba Kwaye, comment les normes culturelles influencent-elles la perception de la sexualité chez les jeunes Congolais, même chez les parents aussi, hein?
Concernant les normes culturelles, je dis les normes culturelles jouent un rôle clé dans la perception de la sexualité. La sexualité, comme un sujet tabou dans les sociétés africaines, est réservée aux adultes. C'est perçu comme une histoire inappropriée pour les jeunes, et pourtant que nous devons beaucoup en parler. Les rôles du genre traditionnel, les jeunes filles sont souvent encouragées à être soumises. Il y avait ce qu'on appelait les écoles initiatiques, souvent dans nos anciens royaumes. Dans les écoles initiatiques, on apprenait les jeunes filles comment vivre la vie sexuelle, comment préparer, comment vivre dans le foyer. Et les hommes, leurs rites se faisaient souvent pendant la circoncision. Mais malheureusement, avec la modernité, je ne sais pas si on appelle ça modernité, il y a beaucoup de bonnes manières ancestrales qu'on n'en parle plus. Okay. Il y a beaucoup de manières, c'est ça qu'on en parle. Et puis, c'est très important de revenir en ça et de réajuster la manière de faire parce que avec les nouvelles technologies, même si vous n'apprenez pas l'enfant, l'enfant ira apprendre ça là-bas. Et quand l'enfant part apprendre ça sans être orienté, ça pose vraiment un problème sérieux.
Ça, c'est vrai.
Ça pose vraiment un problème sérieux.
Et voilà comment les institutions sociales, je dirais la famille, l'école et puis la religion, contribuent-elles à la construction des identités sexuelles des jeunes dans notre pays?
Bon, les institutions sociales, bon, c'est ce que moi j'avais appelé auparavant les milieux de socialisation.
Okay.
En ce qui concerne la famille, elle est premièrement source d'apprentissage des rôles du genre, des valeurs de société à la sexualité. Une éducation stricte ou ouverte influence la manière dont les jeunes perçoivent leur propre sexualité. Mmh. Moi, je pense que la famille est le milieu clé pour apprendre à l'enfant la sexualité.
Okay.
C'est vraiment le milieu clé. L'orientation des parents guide aussi l'enfant par rapport à l'école, guide aussi l'enfant par rapport à la religion.
Mmh.
Surtout que les peuples africains, les peuples congolais sont des peuples trop croyants. Moi, je pense que si l'école, la famille, l'église se mettent ensemble, mettre une meilleure politique de la sexualité, même dans les groupes de jeunes au niveau des églises.
Oui.
On peut aussi les faire. Je ne sais pas si pour le moment on doit interdire de parler de la sexualité. Quand vous vous interdisez de parler de la sexualité, l'enfant apprendra ça lui-même. Donc, que vous en parlez ou pas, dans l'humain, il est toujours poussé à savoir c'est quoi la sexualité.
La sexualité. Mmh.
Pourquoi les parents m'interdisent beaucoup? Mmh. Pourquoi on dit ça? Et pourtant que si nos parents s'avèrent être ouverts envers les enfants, à mon avis, je pense que la famille est la clé de l'éducation, d'abord en général, et sur le plan sexuel, que le papa ou la maman ou le tuteur soient vraiment ouverts devant les jeunes, surtout les jeunes adolescents qui sont toujours poussés d'apprendre. Si nous ne les faisons pas comme parents, en tout cas les enfants vont apprendre ça eux-mêmes.
Donc vous avez raison en disant que la famille est un lieu confortable pour que les enfants puissent apprendre de l'éducation sexuelle. Alors aujourd'hui avec les médias, les médias sociaux, les Facebook, WhatsApp et machin, et les nouvelles technologies aujourd'hui, quels sont les risques et les opportunités associées pour l'éducation sexuelle de jeunes?
En tout cas, moi, je me fonde toujours sur la famille. Quand je dis que la famille est la clé de l'éducation pour le développement et pour l'éducation sexuelle du jeune, c'est très important. Quand nous parlons des médias, du média, des nouvelles technologies. Avec le monde actuel, l'enfant est aussi obligé de connaître la nouvelle technologie. Sinon, peu importe le type d'études que l'enfant pourrait faire, s'il ne maîtrise pas ça, il risquerait d'être nul. Mais moi, je pense qu'au niveau de la famille, si on apprend l'enfant à faire bon usage des médias sociaux, de ne pas chercher à être un peu comme un militaire, de ne pas chercher à être trop strict, que les parents commencent à causer avec les enfants d'une manière ouverte. Que ces médias-là paient de tout toute ta vie. Ces médias-là aussi, si tu veux apprendre des bonnes choses, ça a vraiment beaucoup d'opportunités. À mon avis, que les parents aient au moins le courage d'en parler aux enfants clairement, de ne pas interdire aux enfants d'utiliser les téléphones, les Facebook, les WhatsApp et autres. C'est important, les vœux vont c'est l'usage. C'est comme je pourrais prendre un exemple typique. Vous pouvez étudier la chimie dans une même promotion, mais l'un fait la tomate avec la chimie qu'il a appris, ça aide la société, et l'autre crée avec des bombes pour tuer. Donc les vrais problèmes, c'est pas la chimie, mais c'est une question d'usage. Mais moi, je pense que les milliers de socialisation, surtout les jeunes, souvent ont tendance de fréquenter ce qui n'est pas trop bon pour chercher à découvrir. C'est pourquoi les parents, nous devons, je dis nous parce que moi je suis parent, nous devons être responsables de nos enfants. La responsabilité, ce n'est pas seulement d'envoyer nos enfants dans des bonnes écoles, mais de parler. Mais aujourd'hui, nous là, on n'a plus de temps pour en parler avec les enfants.
Alors, il y a une question qui m'est traversée l'esprit, monsieur Lebakoye Junior. Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour surmonter la résistance culturelle et aussi les tabous, enfin d'intégrer l'éducation sexuelle dans les conversations familiales, par exemple le soir, la journée, lorsqu'on a l'opportunité d'en parler?
En tout cas, dans nos sociétés traditionnelles, dans les vrais sens de nos sociétés traditionnelles, il y a toujours des heures pour en parler. Dans l'ancien temps, il y avait toujours des écoles initiatiques. Pas dans l'ancien temps, même aujourd'hui, moi, je venais de l'intérieur. Je suis arrivé dans un village vers le haut Touré, là-bas. J'ai trouvé, il n'y avait pas de jeunes parce que les jeunes devaient aller au rite de circoncision.
Ok.
Moi, je pense que les vrais problèmes se posent au milieu urbain. Traverser les rites, c'est difficile, mais les parents juste doivent prendre le courage de dialoguer. Parce que briser les rites est un très long processus, des fois qui est difficile à surmonter. Mais les parents doivent prendre courage d'en parler aux enfants. Parce que quand l'enfant découvre la sexualité tôt, il pourra avoir des enfants avant, il y aura la déperdition scolaire, il y aura beaucoup de choses qui peuvent nuire à l'enfant. Et nous devons toujours chercher à garder l'essence du mariage. Est-ce que le mariage aujourd'hui garde encore son sens, le sens de virginité? Je ne pense pas qu'on en tient compte de ça à ces jours. Donc jusqu'à là, on tient que les, on a que l'essence de consanguinité, qui n'est pas consanguinité. Mais est-ce que l'essence de virginité, est-ce que nous aujourd'hui là, nous, il y a encore combien de filles qui peuvent encore se marier vierges? Pourquoi? Parce que nous, nous n'en parlons pas aux enfants. L'enfant veut, les enfants veulent découvrir avant. Moi, je pense que les parents doivent juste prendre courage de dialoguer avec les enfants. Que les parents soient vraiment ouverts avec les enfants.
Est-ce qu'il y a quelque chose comme un message particulier que M. Junior Lebakwaye peut envoyer aux parents et ainsi qu'aux jeunes par rapport à l'éducation sexuelle?
Comme parent et comme jeune, je suis en même temps jeune et en même temps parent. Mm-hmm. Les jeunes doivent apprendre que c'est lui qui est au centre de son éducation. Donc l'usage des réseaux sociaux, l'usage d'Internet, les jeunes doivent en profiter pour apprendre des bonnes choses, pour apprendre des choses qui lui pourraient être importantes. Et les parents, ce que nous devons faire, c'est juste prendre nos responsabilités. Prendre nos responsabilités, je sais qu'il y a beaucoup de rites culturels. Pourquoi on n'en parle pas? Quand même il y a des problèmes du genre sexuel, vous préférez aller dire ça aux voisins, que les voisins viennent parler à votre enfant. On ne sait pas, est-ce que c'est à cause des manques de vocabulaire approprié? Et pourtant, que quand un parent, un papa ou une maman parle à l'enfant ça d'une manière sérieuse, je pense que l'enfant va écouter. En tout cas, il y a peu d'enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Quand leurs parents, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais je dis qu'il y a peu d'enfants qui n'écoutent pas les parents. Que les parents juste prennent courage d'en parler aux enfants de la sexualité. Et je félicite d'abord la Radio Capi d'initier ce genre d'émission. Qu'il y ait beaucoup de relais, pas seulement à Kinshasa. Qu'il y ait beaucoup de relais même à l'intérieur. Si vous partez à l'intérieur du pays, vous trouverez quand un enfant en 6e des humanités, en 4e des humanités actuellement, qui n'a pas un enfant est considéré comme stérile. Quand il y a beaucoup d'émissions pareilles, qu'il y ait plusieurs sensibilisations, travaille avec les groupes de jeunes, que les jeunes puissent sensibiliser. Je suis même parti quelque part où on me dit que les préservatifs donnent le cancer de col. Est-ce que ces enfants à société fermée, vous devez leur apprendre l'abstinence ou vous devez leur apprendre à faire usage de préservatifs? C'est aussi des questions que nous devons nous parler. Nous devons d'abord dire comme société, hein, est-ce qu'il faut interdire aux jeunes, il faut leur dire de l'abstinence ou il faut leur apprendre d'utiliser des méthodes contraceptives? Je pense que dans des émissions à venir, on doit chercher à développer des thématiques pareilles. Prenez un enfant qui a déjà découvert la sexualité, vous lui dites d'être abstinent. Comment? Il faut faire des campagnes pour apprendre aux enfants, aux jeunes adolescents qui sont prêts à découvrir la sexualité, que quand vous voulez les faire, il faut les faire ainsi pour bien vous préserver. Pas seulement avoir d'enfants, vous pouvez avoir des maladies. Les IST, vous pouvez en avoir. L'enfant d'abord, ce n'est pas un problème. L'enfant dit que c'est Dieu qui a donné. Et si vous n'avez pas d'enfant et vous avez des maladies sexuellement transmissibles, c'est pourquoi il est vraiment important qu'on puisse sensibiliser les jeunes. Donc les vrais problèmes ici, c'est les problèmes de dialogue. Les dialogues d'abord entre jeunes, les dialogues entre parents et jeunes, sensibiliser et leur en parler plus. Merci beaucoup.
Merci, monsieur Junior Lebakwaye. Vous êtes sociologue licencié en sociologie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup.
Et nous terminons notre magazine Bana Okapi. Ciao et à la prochaine.